BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et au programme aujourd'hui, cap sur les marketplaces, modèle central du e-commerce avec un acteur de taille. Zalando fait évoluer son offre en accent sur la seconde main. Le site e-commerce de mode lifestyle s'ouvre au luxe d'occasion. Avec quels enjeux? C'est ce que viendra nous expliquer Laura Toledano. Elle est directrice générale de Zalando pour l'Europe de l'Ouest. Et puis, changement de registre pour le pitch de la start-up. Alors que le loisir indoor progresse, un acteur du e-sport accélère, c'est Eva, son cofondateur Jean Mariotte sera avec nous en plateau. Il viendra nous expliquer pourquoi cette activité plaît autant et comment peut-elle se développer dans les années à venir et surtout sur d'autres marchés. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laura Toledano. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de Zalando en Europe de l'Ouest. Notre experte retail cette semaine, c'est vous, Claire Koraleski. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Media Performance. Alors Zalando, plateforme de mode d'origine allemande, distribue plus de 7000 marques de prêt-à-porter de beauté, de sport dans 29 pays européens. Des résultats records l'an dernier, et ce malgré la concurrence des plateformes chinoises, des plateformes à petit prix. Néanmoins, depuis le début de l'année, l'inflation progresse. Les Français font toujours attention à leur pouvoir d'achat. Laura Toledano, comment se porte ce début d'année ?
Alors écoutez, on a fait en effet une très bonne année 2025, pardon, oh là là, je suis 10 ans en arrière. Et le premier trimestre est également très bon puisque notre GMV, donc notre volume d'affaires, est en croissance de 21,7% sur l'ensemble de nos marchés. Pour moi, ça repose vraiment sur une stratégie de continuité, à la fois sur notre pilier B2C, donc notre direct to consumer, donc ce qu'on offre directement via Zalando, via le Lounge ou via About You. Et notre pilier B2B, où ce sont tous les services que nous offrons maintenant à nos marques partenaires pour qu'elles puissent également se développer sur le digital et international à travers l'Europe. Et au milieu de tout ça, en fait, on a cette plateforme technologique spécialisée dans la mode et lifestyle qui nous donne des fondations absolument remarquables pour scaler le business.
Justement, comment ça se partage? Comment se partage le business entre justement le B2C et votre activité B2B?
Alors en fait, au départ, on développe tout pour le B2C, donc on le développe tout. Tous nos services sont développés pour nos propres clients. Et puis, certains services deviennent vraiment très efficients. Et on se dit que c'est dommage de ne pas en faire bénéficier nos marques. Donc, premier exemple, la logistique. On a développé un réseau logistique de 14 entrepôts partout en Europe qui marche et qui fonctionne extrêmement bien. Je suis sûre que vous connaissez aussi Zalando parce qu'on livre vite, parce que le retour est efficient, etc. Et donc, ce service-là, on le sous-traite également à nos marques qui ont envie de se développer partout en Europe, mais qui n'ont pas les capacités logistique pour le faire. Et c'est la même chose également sur toute la partie développement du site internet. On a un outil qui s'appelle Scale et qui permet de développer des sites internet pour les marques directement. Et donc cette partie B2B est pour nous une source de croissance évidente, mais également le moyen de donner accès au digital à toutes ces marques qui ont envie de se développer et qui cherchent des sources de croissance.
Alors c'est vrai qu'on sait que les Français font quand même attention, mais vous ne notez pas de baisse, que ce soit dans le panier moyen ou dans les habitudes de consommation, ça non?
Alors, nous, on a la chance quand même d'avoir encore beaucoup de demandes sur Zalando et de ne pas subir cette baisse. C'est aussi lié à une stratégie d'offre qui est très large. Nous distribuons de nombreuses catégories. Donc, c'est de la femme, de l'homme, du prêt-à-porter enfant, de la chaussure enfant, mais également du sport performance. On s'ouvre aussi à la décoration. Donc, en fait, finalement, on a une variété d'offres sur les catégories, sur les price points qui permet à tous nos clients de s'y retrouver et d'ajuster. Et aujourd'hui, on a la chance de continuer à performer.
Oui, justement, notamment deux catégories qui performent plutôt bien, le sport et la beauté. Ça, c'est assez récent. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager justement sur ces segments-là?
Alors, on partage malheureusement pas de chiffres précisément, mais ce que je peux vous dire, c'est que la force de ces deux modèles-là, c'est pas uniquement un élargissement de notre offre. C'est-à-dire que quand on se positionne sur le sport, évidemment, on va chercher les plus belles marques, et on a du Nike, du Adidas, du On, du Oka, du Lululemon, etc. Mais on va aussi chercher une expérience. Donc vous allez sur l'app Zalando, et vous allez dans l'onglet sport, et bien ce n'est pas la même expérience que celle que vous allez retrouver sur l'onglet principal. On va adapter, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive le 11 juin, et bien évidemment, on va développer des petits questionnaires, on va travailler vraiment l'interaction avec le client pour qu'il s'engage. Et ça, c'est important. Et au-delà de ça, on a aussi beaucoup investi d'un point de vue marketing sur le sport, puisqu'en fait, Le sport, c'est ce qui unifie les troupes, j'ai envie de dire. Et nos clients, en fait, il y a une attache culturelle au sport qui fait que ça crée tout de suite du lien avec une marque. Et donc, par exemple, nous sponsorisons l'équipe nationale allemande, mais également l'équipe nationale belge, mais également des marathons un peu partout en Europe. Et donc, cet ancrage dans la culture du sport nous permet aussi de s'ancrer dans les pays. Et puis...
Allez-y.
Je termine du coup sur la beauté. Pour nous, c'est également une source de développement très importante, tout simplement parce que c'est aussi incrémental. C'est-à-dire que nos clients, ils sont déjà là, ils achètent déjà chez nous, et leur faire acheter de la beauté, finalement, pour nous, c'est le plus.
C'est le petit achat en plus.
C'est le petit achat en plus qui, eux, ça leur permet d'être super efficace et performant et facile, puisqu'ils mettent tout dans le même panier. Et pour nous, c'est de l'incrément de volume d'affaires.
Alors, il y a un sujet qui monte de plus en plus, notamment la seconde main, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui prend même des parts de marché aux acteurs du secteur. Et notamment aux acteurs moyenne gamme. Vous le proposiez déjà, la seconde main, puis vous l'avez arrêté, puis là, c'est reparti. Vous avez lancé la seconde main pour les enfants, la seconde main aussi avec, dans le luxe, finalement, avec, en vous alliant à un partenaire qui est Vestiaire Collective. Quel a été l'accueil d'abord pour l'enfant et quel est l'enjeu, finalement, d'aborder, d'aller sur du luxe de seconde main?
Alors, comme vous le disiez, on a commencé la seconde main en 2020. Et comme beaucoup d'acteurs, on a mis un peu de temps à trouver notre modèle. C'est pas un secteur qu'il est facile de développer de manière profitable. Et donc, ça met du temps, etc., à comprendre un peu les mécanismes. Nous, le pari qu'on fait, c'est on veut la même qualité de service. Donc, le client, quand il vient sur Zalando, qu'il achète de la seconde main ou de la collection en cours, il doit avoir la même qualité de service. Donc, évidemment, on a dû s'adapter un petit peu en termes d'offres. Au départ, le modèle qui était développé jusqu'à présent, c'est nos clients qui nous renvoient les produits qu'ils ont déjà achetés sur Zalando. Et grâce à ça, ils réinvestissent finalement chez Zalando et c'est un cercle vertueux. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'en moyenne, 64% des produits qui étaient mis en ligne étaient vendus sous 7 jours. Et c'est 90% quand il s'agit de produits premium. Et donc, il y a une vraie appétence. Et donc, nous, notre mission, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Et quand on voit que la seconde main, ça se développe si rapidement partout en Europe avec des acteurs, mais également en interne chez Zalando, se positionner sur du luxe, sur de l'enfant, ça paraissait évident. Sur l'enfant, évidemment, c'était une demande très forte de nos clients, puisque quand on a des enfants, on sait combien il faut de tenues. Hein, donc ça, pour le sport, pour la crèche, pour l'école, il faut renouveler sans cesse. Et donc, la seconde main, c'est une très bonne façon de répondre à des attentes de clients. Et sur le luxe, on est ravis de s'associer avec Vestiaire Collective, qui a toute cette expertise luxe, d'authentification, etc. Et donc, c'est finalement un partenariat gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet d'étendre notre offre luxe de manière sécurisée. Et pour Vestiaire Co, c'est une façon d'aller chercher de nouveaux clients.
Il y a quand même ce sujet de certification, d'authentification. Là, comment ça va s'orchestrer finalement? Est-ce que c'est Vestiaire Collective qui gère de A à Z? Par ailleurs, au niveau de des produits qu'on va retrouver, qui fait l'analyse, la captation de ces produits-là?
Alors, c'est Vestiaire Collective qui est responsable de la sécurisation des produits et de l'authentification des produits. Et nous, on en est ravis parce qu'ils ont plus de 100 personnes qui travaillent de manière dédiée à l'authentification des produits. Donc, ils ont cette expertise que nous n'avions pas au départ. Donc, on est ravis qu'ils le prennent en charge. Et on a travaillé ensemble sur une offre, donc une sorte de curation qui permet finalement d'aller faire une sélection exclusive pour Zalando et d'avoir cette authentification derrière.
Est-ce que Laura, et je vais passer la parole à Claire, mais est-ce qu'on tend vers justement un mélange, une centralisation de propositions entre le neuf, la seconde main? Est-ce que ça, vous le ressentez, vous? Est-ce que vous voyez les personnes qui achètent de la seconde main achètent aussi du neuf? Est-ce que ce sont des achats croisés?
Oui, alors nous, il y a 40% des paniers de seconde main qui étaient associés à un produit de la collection en cours. Donc très clairement, le client ne fait de moins en moins la différence. Et il veut justement que ça soit très facile et que dans son même panier, en un colis, il puisse recevoir des produits de seconde main et des produits neufs.
Claire. Alors quand on a une offre assez large, à la fois l'offre neuf plus l'offre maintenant de seconde main, comment on fait pour que le consommateur s'y retrouve?
La technologie et l'IA, voilà. Et donc, vraiment, et ça c'est une fondation, on en parle très souvent avec Eva, la fondation de Zalando, c'est vraiment l'IA, ça fait 17 ans finalement.
Donc la data d'abord.
La data. Ouais, la data et l'IA qui vient animer cette data finalement. Hein. Et en fait, ça fait 17 ans qu'on accumule de la data. Donc on a la base, enfin on a un trésor national, européen même, sur la data, sur la mode et le lifestyle, et on l'utilise au service du consommateur. Et donc vous avez raison, avec 7000 marques partenaires, la seconde main, etc., s'il n'y a pas une bonne curation, et si on n'est pas capable de personnaliser l'expérience, le client pourrait être perdu. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte, ce qu'on appelle nous le matchmaking, faire en sorte que quand le client se connecte à Zalando, il puisse trouver exactement ce qui lui plaît. Et donc on va capter des données clients, la façon dont il interagit avec le site, la façon dont il met au panier, dont il met dans sa wishlist, les produits qui va, les marques qu'il va suivre. Tous ces éléments, pour nous, c'est des signaux.
Avec des planches de tendance, ça peut se dire
Alors non, c'est à partir du moment où vous cliquez, même à mettre un pouce en l'air, un pouce en... Pour nous, c'est un signal, en fait, qu'on capte. Et en fait, on va regarder tous les clients qui vous ressemblent, ce qu'ils ont acheté, mis au panier, et on va créer finalement des multitudes de mini-clusters de clients, et on va pouvoir vous pousser ce qui vous intéresse. Évidemment, dans ces algorithmes, on ajoute toujours une part de ce qu'on appelle discovery, pour s'assurer que le client ne tourne pas en rond avec toujours le même produit, ou les mêmes marques, et qu'il puisse découvrir des nouvelles catégories, des nouvelles marques qui sont disponibles partout en Europe, etc. Donc c'est vraiment la data, l'IA qui fait que l'expérience, elle est personnalisée. On a 62 millions de consommateurs. On aime à dire qu'on a aussi 62 millions versions de notre application.
Oui, effectivement, il y a ce sujet sur l'intelligence artificielle. Vous y avez mis les bouchées doubles. On parle beaucoup aussi de d'assistants shopping, de jumeaux numériques. Est-ce que, Laura, dans quelle mesure est-ce que le commerce agentique, ça permet de faciliter les achats, de rendre le parcours d'achat plus simple pour l'utilisateur?
Alors nous, on a développé déjà notre propre chat conversationnel, donc alimenté par OpenAI et par les données des clients, ce qui fait que quand vous vous connectez sur Zalando, vous pouvez poser n'importe quelle question. Comment m'habiller aujourd'hui pour aller sur le plateau de Focus Retail? Et ça, grâce à ce que Zalando connaît de vous et grâce à l'IA générative, il va être capable de vous faire une recommandation.
Et ça marche, ça, véritablement?
Alors, au Q1, on a 10 millions de personnes qui l'ont utilisé. Donc, en fait, ça prend
donc,
très bien.
Donc, il arrive sur le site sur 62 millions. Échange-là, ou bien qu'il utilise directement sur le
site? Ça, c'est accessible depuis notre site, soit dans la barre de recherche, soit directement sur la homepage, vous pouvez cliquer, soit... À peu près partout, vous avez ce petit bouton que vous pouvez utiliser. Et à l'intérieur de ce chat, vous pouvez ajouter au panier, vous pouvez payer directement, vous pouvez envoyer des photos, vous pouvez faire des notes vocales parce qu'on sait que la Gen Z n'aime plus écrire. Voilà, donc vraiment, c'est intégré à l'app. Et puis après, il y a le commerce agentique qui est différent, qui va être alimenté par d'autres plateformes en général. Nous, on le voit comme quelque chose de complémentaire. Mm-hmm. C'est beaucoup plus transactionnel que nous, ce qu'on peut faire sur notre site, où il y a beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de conseils, de trends, etc. Le commerce agentique, pour nous, c'est une nouvelle façon d'aller chercher des nouveaux clients. Aujourd'hui, il n'est pas encore disponible en Europe, mais on fait partie de UCP, qui est finalement le programme de Google. Et le jour où ils seront disponibles en Europe, nous serons partenaires. Et vous pourrez du coup acheter des produits Zalando depuis directement... Gemini, oui, de Google. Mais
effectivement, il y a un autre sujet aussi dont on parle beaucoup, c'est le live shopping. Oui. On a vu cette semaine d'ailleurs que Vinted s'y mettait. Vous, est-ce que vous avez commencé un petit peu à tester ça?
Oui, tout à fait. On ne l'a pas testé dans tous les pays, mais on l'a testé en France notamment, avec des influenceurs. Ça marche très très bien au niveau de l'engagement, c'est-à-dire que les clients viennent, se connectent, restent longtemps. En fait, tout dépend ce qu'on y cherche. Nous, on cherchait de l'engagement. On avait envie que nos clients restent plus longtemps sur le site et découvrent des nouvelles marques. Et donc, pour ça, ça a été très fructueux, mais c'est encore sous forme de test. Et on teste différents modèles, des modèles en fonction des versions, par exemple une version longue, une version plus courte, une version où on va proposer plus de promotions, moins de promotions, plus des influenceurs très connus, un peu moins connus. Donc on fait plein de tests en ce moment pour vraiment trouver le bon modèle, mais on y voit quand même du potentiel.
Et TikTok Shop aussi peut-être?
Alors on a fait un test TikTok Shop au UK. Et on a décidé d'arrêter le pilote, puisque ça correspondait moins à notre business model.
Merci beaucoup Laura, restez avec nous, on passe tout de suite au Focus. Alors Claire, c'est vrai qu'au-delà de Zalando, on a tous en tête d'autres grands noms de marketplace. Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le vrai modèle dominant du e-commerce?
Alors, en tout cas, c'est un domaine massif, puisque aujourd'hui, les marketplaces représentent près de 2/3 des ventes de l'e-commerce. Donc, on parle quand même de 2400 milliards de dollars au niveau monde. Et la France n'échappe pas du tout à cette tendance, puisque en France, c'est 1/3 des ventes online. Alors, on se rend bien compte que c'est vraiment, par contre, un marché. Cette partie du marché est en pleine croissance. Donc, c'est vraiment un marché qui va encore progresser. Et c'est pour ça que de nombreuses plateformes plus traditionnelles se mettent au marketplace, en plus des acteurs historiques.
Est-ce que ce sont seulement les pure players justement qui s'y mettent aussi en ce moment?
Alors non, aujourd'hui on voit effectivement alors des retailers physiques au départ, hein, Castorama, je pourrais citer Fnac Darty, qui effectivement ont l'opportunité de se dire sur mon site internet je vais pouvoir couvrir beaucoup plus de besoins que ce que mon assortiment pouvait faire, ce qui fait que le consommateur va rester entre guillemets dans mon enseigne, même si d'un seul coup j'élargis un champ des possibles de façon très importante, puisque Castorama revendique comme ça 1 500 000 références, ce qu'ils n'auraient pas eu directement dans leur assortiment. Fnac Darty donne quelques chiffres. En 2026, l'e-commerce représente désormais 22% du chiffre d'affaires du groupe, et on sait que la croissance est principalement portée aussi par la marketplace.
Et qu'est-ce que ça change véritablement pour une enseigne ? Est-ce que c'est juste des produits en plus sur Internet ou bien un vrai changement de modèle ?
Alors, c'est un vrai changement de modèle parce qu'on essaye de faire un carrefour d'audience, un carrefour de trafic, vous en avez parlé. Donc, effectivement, plus on a une offre large et plus on va attirer du monde sur le site. La partie de la data, ça la change aussi parce qu'à l'inverse, plus on a une offre, un assortiment, vous l'avez très bien expliqué, large, il faut vraiment faire appel à la data pour personnaliser, pour qu'on puisse facilement trouver les bons produits.
Merci beaucoup, Claire. On passe tout de suite au pitch de la start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et à présent, changement de registre, puisqu'on va parler de e-sport. Ça fonctionne très bien d'ailleurs, à tel point que 12 millions de personnes le pratiquent en France. Jean Mariotte, bonjour, vous nous avez rejoint, vous êtes le cofondateur, vous êtes aussi le président d'EVA, donc Compendre e-sport virtuel Arenas, que vous avez fondé en 2018. Alors ce sont des salles de jeu, des arènes de réalité virtuelle, immersives, où on a un casque sur le visage. Aujourd'hui, ce concept accélère, vous visez 100 salles d'ici à la fin de l'année. Racontez-nous ce concept.
Le concept, il est assez innovant et il mixe un peu le jeu vidéo et le sport, puisqu'en fait, vous imaginez une sorte de terrain de basket vide dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer librement. On vous met un casque de réalité virtuelle sur la tête et puis après, on a développé des contenus dans lesquels vous allez jouer et vous déplacer en même temps. Notre jeu historique, c'est un jeu e-sport, effectivement, mais qui est accessible à tout le monde, qui est un jeu de tir. Et qu'on avait effectivement lancé et annoncé à la Paris Games Week en 2019. Et puis après, on a développé notre concept en franchise. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à se développer assez rapidement, parce que c'est un modèle assez vertueux pour aller vite. Avec aujourd'hui une cinquantaine de salles en France et presque 80 salles à l'international, enfin au global. Et effectivement, on vise 100 salles à la fin de l'année. Et surtout, on a deux nouveaux jeux qui arrivent cette année. Donc voilà.
Alors justement, pour ceux qui nous regardent, vous avez dû voir des images. Donc on voit, c'est des décors assez intéressants. On voit même les gens courir. C'est ça qui est quand même bluffant, parce qu'on a un casque sur le visage. Mais finalement, on peut se dire qu'on peut courir en totale, sécurité, exactement, parce que le terrain est très grand. Vous avez combien de jeux en tout aujourd'hui?
Notre particularité, c'est pour ça qu'on est un petit peu un ovni, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qui partent du principe qu'il faut développer beaucoup de jeux pour faire revenir les gens. Nous, on a une approche où on avait jusqu'à maintenant, pendant 5 ans, développé un seul jeu, mais qui évolue et qui a assez de profondeur pour que vous puissiez le pratiquer comme un sport à assez haut niveau. C'est les images qu'on voit. Alors je vous rassure, quand vous faites votre première partie, vous n'avez pas le droit de courir comme ça. Là, c'est du très haut niveau. Maintenant, on a la Pro League avec des teams assez connus e-sport comme Vitality, qui est un peu notre champion français, etc., qui participe à ces compétitions. Voilà, donc c'est.
Ah oui, parce qu'il y a même des compétitions. Alors c'est quoi le l'âge moyen, puisque là vous sortez un tout nouveau jeu autour des lapins crétins. Donc là, j'imagine que c'est pour aller attirer les familles. Mais sinon, la cible, c'est quoi?
Alors la cible de notre jeu historique, c'est 27 ans, plutôt un homme, voilà. Et donc ce n'est pas sur une cible enfant. Et là, justement, l'idée c'était d'ouvrir aussi l'audience avec la création de nouveaux contenus. Donc on a annoncé fin d'année dernière un jeu qui sortira. Globalement fin 2026, c'est un peu plus tôt à Paris parce que c'est notre laboratoire, qui est un jeu de karting, donc EVA Karting GP. Donc là, vous allez carrément piloter un vrai kart électrique dans l'arène et vivre une expérience de karting.
On mélange réel et virtuel.
On mélange toujours globalement réel et virtuel. Et puis là, on a sorti, pour le coup, il est disponible partout, avec Ubisoft notre jeu Lapin Crétin qui a est destination des enfants, donc ça pourrait peut-être matcher.
Je vais y venir avec Laura. Finalement, c'est assez intéressant puisque vous testez tout ça dans votre salle que vous avez à Paris, mais sinon, vous n'avez que des franchises. Claire ?
Moi, je vais rebondir justement quand on s'intéresse à des jeunes, à plus jeunes. Normalement, le sport, c'est l'état d'esprit collectif, c'est une certaine discipline, c'est un partage. Donc là, on va quand même le retrouver, du coup, à travers le fait que je ne suis plus isolée chez moi sur mon écran, je suis quand même dans un collectif. Oui. Je fais vraiment des efforts physiques ou...
Ah oui, oui, oui. Hein.
Ah oui. Non, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort D'accord. que ça demande physiquement. Aujourd'hui, dans les équipes pro, il y a des kinés, des préparateurs sportifs, etc., qui sont là lors des compétitions. Ça nous est déjà malheureusement arrivé de voir des ligaments croisés en compétition parce que voilà le joueur a trop forcé. Donc c'est vraiment, on a aussi plein de témoignages où on voit des jeunes qui ont perdu beaucoup de kilos en jouant juste à Eva. Voilà, donc c'est un vrai sport. Et c'est vrai que sur le jeu vidéo, c'est le loisir numéro un dans le monde. Ouais. Mais en même temps, ça fait aussi la promotion de la sédentarité, ce qui est un vrai sujet de santé mondiale au final. En toute transparence, c'était pas notre objectif de révolutionner, de solutionner ce problème de santé mondiale avec Eva. Mais en tout cas, on est très content de voir finalement ce deuxième effet qui arrive et cette conséquence super positive de réconcilier un peu ce truc du jeu vidéo qui a une mauvaise image parce qu'on est très devant notre écran, on bouge pas, avec finalement cette approche physique.
Alors là, vous venez de lever 35 millions d'euros auprès de Raise. C'est la plus grosse levée de fonds dans le loisir immersif. Finalement, pourquoi ce secteur attire-t-il autant et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Est-ce que l'ambition, c'est vraiment d'aller conquérir de nouveaux marchés? Ou est-ce que c'est très connu, réputé, le e-sport en dehors de la France?
Alors, la France est une très grande nation e-sport. D'ailleurs, il y a l'e-sport World Cup qui a choisi de venir à Paris.
Lors de Versailles.
Voilà, donc c'est quand même la preuve que la France est quand même un pays très très en avance sur
l'e-sport.
C'est le
second choix quand même. C'était pas le choix initial, non, il me semble.
Ouais, bon, mais on va retenir simplement que c'est à Paris et c'est très bien. Non, mais c'est parce qu'à la base c'est à Riyad, donc voilà, ils l'ont déplacé à Paris. J'ai perdu le fil de
mémoire. Non, et du coup, est-ce que l'objectif c'est d'aller sur d'autres marchés et lesquels?
Oui, alors les marchés ensuite. Donc nous, on s'est beaucoup développé en France. Maintenant, l'exercice et notamment grâce à cette levée, ça va être de prouver que le concept marche à l'international. Alors on a déjà 18 salles à l'international. Notamment, on est bien développé au Middle East. On a quelques salles aussi en Espagne, en Allemagne, qui sont notre focus sur les deux prochaines années. Et donc voilà, on va reproduire, dupliquer, mais j'espère en mieux, puisqu'on a quand même fait des erreurs qu'on va pas essayer de pas reproduire. Mais voilà, on va développer ces deux pays. Et puis, objectif aussi, c'est d'ouvrir un nouveau continent, type États-Unis ou Asie, d'ici fin 2027.
Très intéressant. Alors, une question, vous vous installez en général sur des emplacements assez grands, type ancien entrepôt de loisirs, etc. Ouais. Est-ce que vous envisagez de vous installer à côté de centres commerciaux ou de centres de marque, par exemple, comme c'est le cas pour La Tête dans les Nuages?
En fait, Eva est un lieu de destination. C'est-à-dire que quasiment 100% des gens qui viennent chez nous, ils ont réservé online. Donc c'est vrai qu'on a testé des modèles type centres commerciaux. On n'a pas d'énormes synergies. En fait, ça fait pas forcément. À part qu'on va payer un loyer plus cher. En fait, on n'a pas forcément le ROI derrière en termes de business. Par contre, on a des synergies assez fortes avec le sport. Dès qu'on est à côté de paddle ou de salles de fitness et autres, on voit qu'il y a des synergies assez intéressantes. Mais l'exercice, c'est surtout d'être accessible en fait. Parce qu'on a un lieu de destination, mais par contre, on regarde beaucoup l'accessibilité.
Justement, le prix, ça coûte combien?
Alors, une session, c'est entre 20 et 25 euros pour 40 minutes. Et après, vous pouvez vous abonner pour jouer régulièrement. Là, vous allez, si je ramène le prix à la session, vous allez tourner entre 10 et 12 euros la session.
Laura, une question avant qu'on...
Non, c'est moins cher que le Pilates Reformer.
Exactement. Ah, vous avez enlevé le... Merci beaucoup, Jean. Restez avec nous, on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Alors la Ligue des Champions est à peine terminée, que jeudi prochain débute la Coupe du Monde de foot 2026. Ça c'est un événement extrêmement important dans le retail à ne surtout pas louper.
Alors tout à fait, surtout que dans le retail c'est important pour le non alimentaire. On sait que c'est des catégories qui souffrent beaucoup. On sait que le marché du téléviseur il est plutôt en déclin, mais c'est ce type d'événement qui lui fait un peu être reconsidéré. 88% des Français prévoient de regarder le match à la télévision. Et d'ailleurs, 24% des Français envisagent de changer de téléviseur pour l'événement. Je veux toujours plus grand dans mon salon pour regarder ce type d'événement.
Comment est-ce que les enseignes arrivent à transformer l'essai?
Alors, les enseignes, elles surfent effectivement sur la vague déjà avec un certain nombre de produits dérivés. On sait déjà qu'Intermarché dit avoir customisé 38 produits de la marque propre pour l'événement. On sait aussi que Lidl prévoit un certain nombre de produits. Intersport, lui, mise sur un pop-up dans Paris, on pourra aller faire du foot urbain pour pouvoir effectivement lier directement une pratique à la marque et puis à l'événement.
Finalement, il ne faut vraiment pas se louper sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie machine économique?
Alors, complètement. Alors, c'est une machine économique déjà parce qu'il y a les marques qui sponsorisent leur présence dans différents événements. Il y a les spots publicitaires lors de ces passages télévisuels qui sont effectivement une source économique très importante. Alors, il y a quelques chiffres qui sont communiqués. Alors, des chiffres intéressants, un spot publicitaire 30 secondes à la mi-temps d'une finale, ça peut coûter jusqu'à 500 000 euros. Donc, on se rend compte que déjà, c'est vraiment... pour tous les médias, une source significative. La FIFA a fait un peu un calcul entre 2023 et 2026. Elle parle de 2,7 milliards de dollars de revenus grâce à ces différents events, pas que la Coupe du Monde, grâce à ces différents events.
Merci beaucoup Claire. C'est vrai, vous le soulignez, ce qui est intéressant, c'est le fait que aujourd'hui les enseignes, les distributeurs notamment, prennent leur marque propre et font se servent de la Coupe du Monde sur leur marque propre. C'était le cas d'Intermarché, c'est aussi le cas de Lidl qui a pris Olivier Giroud comme égérie de sa marque de sport Krivit. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business. Bon week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.